Podcast.com. Essaye ça.
Du 13 juin, je n'ai pas regardé la météo du Québec, mais ici, il pleut abondamment. J'espère que ça va ressembler à ça dans les régions touchées par les feux de forêt, notamment en Abitibi, où on essaie de sauver Nord Métal. Puis, on espère que la pluie se propage, mais en tout cas, c'est un peu ironique qu'on en ait là où on n'en a pas besoin. Ça va, Martin?
Ici aussi, à Montréal, il pleut. Là. C'est sûr que ça ne change rien. Il n'y a pas de feu de forêt ici, là, mais c'est indicatif de ce qui se passe. C'est une excellente nouvelle. Là, faut que j'ouvre avec ça. Là. Je te l'ai pas dit, là, mais
vas-y.
Encore une fois, puis on va en reparler demain, puis on va en reparler jeudi. Écoute, qui est-ce qui est maillé?
T'as l'air découragé.
Mais non, mais Éric Duhaime qui y va hier d'une sortie, évidemment, hein, on l'avait pas vu ben, dans la foulée des feux de forêt, puis toute la kit, puis là, ben, il devait être en train de négocier autre chose dont je vais te parler tantôt, fait que c'était plus tranquille, ses affaires. Puis là, ben, je vais te lire un tweet qui a sorti hier. Le gouvernement Legault doit lever l'interdiction de circuler en forêt dans les régions où l'indice de feu est bas à modéré. La météo des prochains jours s'annonce pluvieuse. Les Québécois sont empêchés d'aller pêcher.
Ah, arrête de parler au nom des Québécois, Éric. Tu ne représentes personne.
Ou de se promener dans les endroits qui ne sont pas à risque. Tu sais, regarde. Ça, là, si vous avez... Si vous avez droit à votre opinion, là, mais si vous ne considérez pas ça comme du racolage cheap, de prendre le sujet de l'heure dans l'actualité puis de le twister de bord juste pour trouver quelque chose, pour revendiquer quoi que ce soit. Tu sais, c'est quoi la prochaine étape, Éric? Là? Tu vas aller prendre en photo comme Maxime Bernier d'un magasin de guns? Tu sais, parce que là, ça va être un moment donné, ça va redevenir le sujet de l'heure, tu sais, le port d'armes, puis, tu sais, l'accessibilité. C'est cheap à l'os. C'est vraiment, là, c'est le syndrome de l'enfant qui se met du Kentucky d'en face, puis que, tu sais, à un moment donné, ben tu dis, il va arrêter, mais Éric Duhaime n'arrête jamais. Il n'a jamais assez de Kentucky d'en face. Puis là, ben écoute... Si ça va pas y chercher des nouvelles personnes dans ces... Si ça ne fait pas entrer de nouvelles personnes dans ces rangs, ben ça galvanise ceux qui en font déjà partie. Puis, je m'excuse, là, mais regarde bien, là. OK? Éric Duhaime, là, puis je vais faire un segue avec ça, parce qu'on va parler de l'entente qu'il a conclue avec le Journal de Québec. Mais de dire qu'Éric Duhaime n'est pas au fait du fait, il s'en est fait parler par Patrick Lagacé, il s'en est fait parler partout, il s'en fait parler tout le temps. Il fustige contre ceux qui le prétendent, mais il reste qu'il est très au courant. Il est plus au courant du fait complotiste que le gouvernement.
Ah oui, ben oui.
Fait que,
ben
regarde,
oui, c'est son
fait
monde.
Que ça, là.
C'est ta gang.
Ça, là, ça contribue encore une fois à faire en sorte que toujours sur la ligne. C'est la seule fois, c'est le seul sujet sur lequel il a été brillant depuis le début de toutes ces histoires-là, c'est de marcher sur cette ligne-là. Pour le reste, là, c'était pioui, ouais. C'est pioui, honesty, là. Mais
c'est la ligne qui s'est.
Non,
qui sépare les gens raisonnables des conspirationnistes. Puis lui, il surfe sur cette ligne-là parce qu'il veut conserver sa base électorale de conspi, puis il veut flagorner les gens un peu plus raisonnables et modérés. Fait qu'il essaie d'aller là-dessus. Puis comme je dis tout le temps, regarde, il se bat pour exister. Fait que quand il n'y a pas de sujet qui l'interpelle vraiment, il s'en invente un, il en trouve un, puis comme tu dis, c'est exactement comme tu dis, là, il twist de nez. Il peut prendre n'importe quel sujet, puis twister d'une façon à essayer de revendiquer quelque chose. Comme disait Dan de Chambly, ah ouais, pétition, mon Éric.
Ah ouais,
c'est vraiment ça qu'il essaie de faire. C'est ça, sa job, c'est essayer d'exister alors que, tu sais, on en oublie presque sa présence. Pour vrai, s'il ne réagit pas à ces niaiseries-là, On oublie qu'il existe parce que Éric, tu représentes presque personne. Puis presque personne n'a voté pour toi et presque personne aimerait ça de voir premier ministre du Québec.
Puis, là, ce que je vais te dire là-dessus aussi, c'est hyper personnel. Là. C'est une expérience personnelle. T'sais, moi, là, les gens dans ma famille là, qui sont des chasseurs, pêcheurs, amants de la nature, tripeux de quatre roues, toutes ces affaires-là, c'est les dernières personnes qui vont aller dans le bois en ce moment. Là. Parce qu'ils savent le niveau de dangerosité. Ils savent que tu es à une étincelle de peut-être repartir une autre affaire. Ce sont les gens qui sont les plus respectueux de la nature. C'est souvent eux autres. Ce sont les gens qui vont en chasse, vont en pêche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de braconniers, puis de maillets, puis de tatas. C'est pas ça que je dis. Sauf que les vrais de vrais, là, tu sais, les purs et durs, c'est des gens qui vont respecter le fait que de ce temps-là, c'est pas une bonne idée d'aller dans le bois. C'est tout. Mais là, si tu veux aller à la pêche,
amateur de plein air, là.
Continue d'aller à la pêche Twitter, Facebook, puis laisse les pêcheurs et les chasseurs tranquilles. Voilà.
Moi, j'en suis un pêcheur un peu maniaque. Là. D'habitude, j'y vais presque à tous les jours. En tout cas, quand j'étais en Abitibi, à Montréal, c'est moins fréquent. Quoi qu'il y a des belles pêches à faire à Montréal aussi, dans le fleuve. Mais tu sais, c'est vrai que là, il y a des... on n'est pas ça va partout à une étincelle. Le problème, c'est que, parce que là, il parle des forêts où le risque est faible à modéré. Le problème, c'est pas que ces forêts-là sont dangereuses et sont susceptibles de s'allumer du jour au lendemain. C'est que là, on en a tellement de feux de forêt qu'on ne peut pas en avoir un de plus. C'est aussi simple que ça. Puis modéré, ça ne veut pas dire risque inexistant. Puis, comme tu dis, ouais, il y en a des épais. Puis, il y en a des caves là, à leur chalet qui font des feux de tire. Ça existe. Mais c'est parce que. Dans le moment où dans la situation où on est, on ne peut pas se permettre un autre incendie de forêt. Fait que même si le risque est juste modéré, on va pas y aller puis on va se tenir un petit peu.
Assurons-nous okay? que ça reste de même.
Ça existe. Là. Être raisonnable, ça se peut. Là.
Assurons-nous que ça reste de même, justement. T'sais, si le risque est de faible à modéré, ben assurons-nous qu'il le devienne partout d'ici à ce que tout ça soit endigué puis que ça soit chose du passé. Mais là, actuellement, tu sais, je comprends très bien que tu sais, il y a eu une interdiction. Puis voyons, calvaire, regarde dehors, Esti. Prends deux minutes, là, Chris. Là, sors-toi le nez dehors un peu. Parle avec ton monde dans les régions. Regarde la vidéo de Joe Saint-Pierre, sa mère à Lebel sur Quivillon. On aurait dit qu'elle était dans le film Dante Speak. Laisse donc faire les 3-4 pêcheurs qui peuvent pas y aller puis qui se lamentent sur les pages des conspis. Puis Chris, embarque donc en patente, là.
Puis t'es pas obligé de faire un feu de gaz, un feu de tire alimenté au gaz pour risquer de faire un incendie. Là. Un botch de cigarette ou bien même juste se promener en VTT. Je sais pas si tu sais, t'as déjà touché à ça, un muffler. Là. Oh, ça vient chaud en maudit. Un moteur aussi, ça vient chaud. Ça prend pas grand-chose pour partir un feu. Fait que
on le
responsable, c'est gars, on ira pas tant qu'on n'a pas un peu de contrôle sur les incendies.
C'est simple. Garde. Moins il y a de monde dans le bois, moins il y a de risques de feux de forêt. Fin. C'est tout. C'est pas grave. Pourquoi? Mmh. Si tu le muffler, si c'est une ça, étincelle, c'est si tu un botch, s'il n'y a pas d'humain, ça va rester faible à modérer. On peut-tu faire un petit effort collectif? Ben non, l'effort collectif, Éric, là, ça, c'est. Non, c'est pas grave, ça. Éric, il ne se soucie pas des 180 personnes qui ne veulent pas aller dans le bois. Il se soucie des 20 qui braillent et qui ne peuvent pas y aller. C'est tout.
Puis en fait, moi, j'ai pas vu personne broyer qui pouvait pas y aller. Moi, je pense qu'il les imagine. Et je pense que ce qu'il va dire va rejoindre des gens qui vont même pas dans le bois de toute façon. C'est fans à lui, là. Je suis convaincu qu'il y a le bain là-dedans qui vont être outrés de ça juste parce que Éric a dit qu'il fallait être outré de ça. Ils vont même pas dans le bois, ça les touche même pas. Mais c'est juste, le maître à penser a dit qu'il fallait être outré de ça. Soyons outré de ça. Allons à la radio Conspix, broyer, puis allons, tu sais. Il essaie juste de partir d'une controverse autour d'une décision qui ne mérite pas de controverse du gouvernement, parce que Éric, comme je le dis souvent, se bat pour exister. Ben, t'existes, mais t'as dans un gros cave. J'aime bien la comparaison avec Gargamel qu'on fait dans les commentaires. Je pense que... Je lui raserais un petit peu dessus de la tête, puis il me semble que... Il ferait un bon Gargamel.
Fait que là, tant qu'à en parler, vidons la question. Il y a eu, à minuit moins 5, il y a eu un deal qui est survenu entre Éric Duhaime, Journal de Québec, et ce dernier étant poursuivi en diffamation en vertu d'un article qui avait été écrit par Karine Gagnon le 22 septembre 2020. Entre autres choses, elle mentionnait que le titre de l'article, c'était « Les complotistes du Québec ».
qu'elle mentionnait que Radio X faisait la courroie de transmission par excellence des complotistes, que Éric Duhaime y était même devenu chroniqueur régulier, que bon, et tout ça. Puis là, ben Duhaime n'était pas de bonne humeur, chronique médisante, que ça a causé préjudice à sa réputation, comme s'il n'était pas capable de le faire tout seul. Il réclamait 125 000 à Média QMI, dont 100 000 à titre de dommages intérêts, puis 25 000 à dommages punitifs. Là, j'ai aucune information. Il n'y en a pas. C'est sûr qu'il y a un non-disclosure agreement, une entente de non-divulgation là-dessus, c'est clair. Ce qui va être probablement ça être passé, c'est que Média QMI va faire un don de X, Y, Z à telle patente. Je peux pas croire qu'Éric Duhaime va se mettre du cash dans les poches avec ça. Ça en serait gênant. Mais
Il va s'acheter des cartes de son parti.
Moi, j'en doute. Mais par contre, où est-ce que Éric Duhaime, puis ça, c'est pas la première fois que je le dis, je pense qu'il y avait quand même un point valable, c'est qu'il avait tenté de ne pas aller en cours. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a un deal. Parce qu'il a tenté à quatre reprises d'acheminer un texte à Média QMI en réponse à l'article de Karine Gagnon, et Média QMI a toujours refusé. À l'époque, moi, je disais que j'aurais probablement fait la même affaire en soutien à mon journaliste ou chroniqueur, mais tu sais, Éric Duhaime, il aurait quand même été en mesure de faire la démonstration qu'il a tout fait pour éviter de devoir aller en cours. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait un peu pencher la balance sur le fait d'en venir à une entente, de conclure une entente, puis tu sais, de passer à autre chose. On a d'autres choses à faire avec ça. Puis tout le kit. Sauf que, n'en demeure pas moins que, tu sais, je me rappelle dans le temps d'MTD, j'avais fait une publication. C'est une affaire comme en 8 mois, avant la campagne électorale, là, genre en 8 mois, il y avait eu comme 23 publications sur le site web de Radio X qui étaient des chroniques d'Éric Duhaime, alors qu'il était chef du parti. Là. Fait que ben oui, à un moment donné, là, viens pas nous faire à croire pendant 10 secondes à nous faire à croire qu'Éric Duhaime, Éric Duhaime, même lorsqu'il était chef du Parti conservateur, il est chroniqueur à Radio X. Puis, regarde ici, il ouvrait un micro. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Éric? C'était un engin de propagande, ni plus ni moins. Puis, regarde, de prétendre le contraire, c'est de la bullshit. Je suis désolé. Puis là, c'est pas mon opinion. Puis, c'est drôle, hein? Mais, ça fait partie des politiques de la maison. Quand ça fait longtemps qu'un article est long, on les enlève. Ben oui. Même affaire avec Sornette Strudel, même affaire avec à peu près tout ce qui a été polémique sur votre site web. Fait que là, ben regarde, on passe à d'autres choses. On le saura jamais, c'est quoi qui a été conclu ou entendu. On le saura jamais. Puis en même temps, regarde, je veux dire, moi, je pense que s'il y a eu un accord, c'est parce que les deux parties avaient raison. Je pense qu'Éric Duhaime, il y avait quand même un point valable à l'effet que, tu sais, ça aurait fait de bonne presse, là, je veux dire, ça aurait vendu de la copie, là, c'est sûr, ça aurait eu des clics en masse si la réplique d'Éric Duhaime avait été publiée par le Journal de Québec. Ils ont décidé de ne pas le faire.
Il
n'était
pas tenu de le faire pareil, là, mais...
Non, c'est pas qu'il était tenu, sauf que... Frank, tu sais, je comprends une fois, je comprends deux fois, mais là, quatre fois, puis tu poursuis un jeu, j'aurais dit, écoutez, là, je pense que M. Duhaime a fait montre de...
Il a essayé de
essayé de faire ça autrement que de venir déranger la cour.
Éric, dans les circonstances, il a bien fait ça. Mais puis pour ce qui est de Radio X, ben, quiconque les a écoutés un petit peu sait que...
Ben oui.
Que les conservateurs ont toujours eu un traitement de faveur, que les Radio X, c'est une courroie de transmission du Parti conservateur et qui travaille toujours à les en faire élire le plus possible. Mm-hmm. C'est pas nouveau, ça a toujours été ça. C'est eux autres, l'éthique à laquelle souscrivent la plupart des médias, d'offrir à peu près la même représentativité ou le même temps d'antenne aux candidats des différents partis. Eux autres, ils n'y souscrivent pas. Eux autres, ils ont toujours eu un parti pris pour les partis de droite, les partis conservateurs, les candidats comme ça. Puis le micro est toujours ouvert pour la droite puis toujours fermé pour la gauche. Ben, quand ils invitent quelqu'un pour la gauche, c'est pour le cuisiner, le confronter, essayer de le ramasser, de le coincer. Puis quand c'est un candidat de droite du Parti conservateur fédéral ou maintenant provincial, on ouvre le micro, dis ce que tu veux, je vais t'envoyer des passes à la palette, t'as juste à la mettre top net, puis en sortant dans les douches, je vais te licher un petit peu le rectum.
C'est toujours le même enjeu, tu sais, quand t'es en diffamation, en libelle et tout ça, tu sais, il faut que tu fasses une démonstration tangible du fait que ça a causé préjudice à ta réputation et ou à tes affaires. Ben, tu sais, moi, Éric, excuse-moi, là, mais je pense que pas payer tes taxes, ça t'a pas mal plus nuit qu'un article dans le journal.
Ben, je pense que oui.
Fait que, tu sais, là, à un moment donné, là, je veux dire, c'est bien beau la victimite, là, mais tu sais, à un moment donné, regarde, assume-toi. Là, tu sais, probablement, là, j'espère qu'il n'écoute pas. OK? J'espère qu'il n'écoute pas. Parce que probablement qu'Éric, là, tu sais, là, c'est 553 000 qu'il a ramassé là, aux dernières élections. Probablement là, que s'il faisait le deuxième coming out de sa vie, puis qu'il disait ouvertement que, regarde, oui, il considère que, puis qu'il utilise le moniker complotiste, il passerait peut-être à 750 000. Mais j'espère qu'il ne m'écoute pas.
Non. C'est sûr.
Mais non, il ne nous écoute pas. On est des maillets.
Ouais. Parlant de médias de droite, Fox News est fâché envers Tucker Carlson après l'avoir sacré dehors au terme de la poursuite qu'ils ont subie de Dominion. En fait, ils se sont entendus avec Dominion hors cours, puis ils ont accepté de verser à Dominion 787 millions. Et j'ai l'impression qu'il y avait une clause de crisser Tucker Carlson dehors. Ou on l'a sacré dehors parce qu'il a coûté
affaires.
Trop cher avec ses menteries. Là.
Il est sorti des allégations à l'effet que ça faisait partie du deal, mais que c'était pas, ça n'en faisait pas partie prenante. Mais en tout cas, regarde, on ne saura jamais.
Mais peu importe, si un animateur te coûte 787 millions, c'est une bonne raison de t'en départir. qu'il soit dans un deal ou non.
Ça va être de l'allure.
Ouais. Puis là, ce qui arrive souvent dans les médias, c'est que tu as une clause de non-compétitivité. C'est-à-dire que, admettons que tout ce qui TV est une station de radio pour laquelle je travaille, je signe un contrat jusqu'en 2025 et on s'entend plus, moi et Martin, on se chicane, je sac mon camp, puis je m'en vais travailler dans une autre chaîne Twitch, puis... même si j'ai un contrat jusqu'en 2025, un contrat d'exclusivité qui normalement m'interdit d'agir dans d'autres médias qui sont en compétition directe avec tout ce qui si je m'en séparais. Ben c'est ça qui arrive avec Tucker Carlson, selon Fox News. Eux autres, c'est la compétition qu'ils estiment déloyale, c'est celle qu'il fait sur Twitter, parce qu'il est allé sur Twitter, puis il fait des shows. Il fait le même show qu'à Fox News. Ça. C'est le même maudit produit. C'est Tucker Carlson habillé dans un beau suit pour impressionner les pauvres, puis qui fait des rants de droite, puis qui fait de la désinformation, un petit peu de théorie de complot par la bande. Fait que c'est le même produit qu'il offrait lorsqu'il était chez Fox News. Et Fox News dit, là, t'as pas le droit de faire ça, t'as signé avec nous jusqu'en 2025. Donc, tu violes les termes de ton contrat qui te liait à nous, c'est-à-dire avec les clauses de non-compétitivité. Depuis qu'il est sur Twitter, il a fait deux shows. C'est des monologues, mais c'est des shows. Là, c'est la même affaire. Il les a fait les 6 et 8 juin, puis il est exactement dans le même style. Tout ça. Puis il a réussi à avoir 3,3 millions de... En fait, l'émission qu'il avait sur Fox News rassemblait 3,3 millions de téléspectateurs. C'était un gros succès. Puis sur Twitter, c'est encore plus gros. Écoute, il y a 8,3 millions d'abonnés sur Twitter. Ses shows ont été vus, son premier, celui du 6 juin, il a été vu 115 millions de fois. Puis, évidemment, il y avait le buzz du moment. On voulait savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Le monde était un peu voyeur. Est-ce qu'il va planter Fox? Qu'est-ce qu'il va dire à son premier show? Fait qu'il y avait 115 millions de personnes qui se sont assis devant leur écran pour écouter ça. Le deuxième, ça drop de plus de moitié. C'est 55 millions de personnes. Ben oui, le buzz du premier show était fini. Puis, on dit, ah, OK, il fait juste la même marde qu'à Fox. Fait que ceux qui ne l'écoutaient pas à Fox sont partis. Mais c'est quand même 55 millions de personnes qui l'ont écouté, là, ça fait pas mal de monde.
Il y en avait 3 à Fox.
Comment?
Il y en avait 3 millions.
Il y avait juste 3 millions à Fox. Mais on s'entend que Twitter, tu sais, Fox, ça passe à la TV, puis après ça, c'est passé. Sur Twitter, ouais, ça reste là. Fait que les gens peuvent y retourner, puis il y a du bouche-oreille qui se font. Tu écoutais ça, va écouter ça, tu vas voir.
Puis c'est pas la... Tu sais, regardez ça sur Twitter, là, moi, je te soumets que c'est pas la même forme de consommation non plus, là.
Non,
sur Fox News puis sur Twitter, me semble que ça s'écoute moins en tenant le poteau dans le métro. Là.
Non, c'est ça. C'est beaucoup plus accessible sur Internet. Puis il fait le même produit. Je pense que c'est défendable que c'est de la compétition déloyale, surtout s'il y a un contrat qui le lie jusqu'en 2025. Fox News, eux autres, c'est ça. Ils décident de le mettre en demeure pour ça. Est-ce que ça va donner quelque chose? J'en doute. J'ai l'impression qu'il va s'en tirer.
Moi, je peux te compter une aventure.
Il n'est pas... Attends, ça ne sera pas long. Parce qu'il n'est pas... une autre chaîne, il n'est pas sur le même médium. Il est maintenant sur Twitter. Il n'est pas sur une chaîne rivale comme CNN, par exemple. D'ailleurs, même avec sa grosse perte, sa grosse baisse à l'audimat, Fox News reste quand même en avant de CNN et les autres compétiteurs. Là, ils sont quand même très, très en avant. C'est un peu déprimant de savoir que Fox News, c'est pas mal le poste de nouvelles le plus écouté par la population de ce pays tout croche-là. Mais bon, c'est le monde dans lequel on vit.
Petite courte aventure personnelle. Quand j'ai commencé à travailler en informatique, j'ai quitté mon emploi pour aller travailler chez... C'était discutable que c'était un compétiteur, mais bon, c'était en informatique pareil. Puis il a fallu que... pas que je poursuive, mais que... Ben oui, en fait, j'avais envoyé une mise en demeure à mon employeur parce que dans le contrat que j'avais signé avec lui, le premier, là, celui que j'avais quitté, j'avais pas le droit de travailler pour un compétiteur qui était dans un rayon de 80 km des opérations de celui que je quittais. Puis j'avais recouru au service d'un avocat qui avait mis en demeure la compagnie. Puis la prétention qu'il avait fait changer le vent de bord, c'était que ça avait été... C'était une clause abusive parce que c'était facilement démontrable que si j'avais pas signé cette clause-là, j'aurais pas eu la job. Puis là, ben la défense que lui avait présentée, c'était que c'est une clause abusive. Tu peux pas demander à quelqu'un de... T'sais, tu peux pas demander à un électricien de plus être électricien parce qu'il travaille plus pour toi. Fait que j'avais gagné.
C'est aliéner sa liberté. C'est à l'encontre des droits de l'homme, là, selon moi.
Ouais, mais c'était pas... Il y avait pas eu de notion de droits de l'homme là-dedans. C'était bien plus que c'est une clause abusive. Ben, par extension, ouais, oui, là, mais c'est une clause abusive en affaires. En affaires,
Tu vas aliéner la liberté de travailler puis de gagner sa vie dans son métier de quelqu'un. Wow. Puis on a un ami commun qui était producteur à une station où on a travaillé, qui s'est fait mettre dehors sans raison claire. Puis il s'était trouvé une job à une autre station de radio, puis on a voulu l'empêcher de gagner sa vie de cette façon-là. Surtout que c'était même pas quelqu'un qui était en onde. Là, c'est quelqu'un qui travaillait dans les coulisses. Là,
C'était-tu un genre de directeur des nouvelles, là, mettons?
Non, c'était un genre de producteur commercial.
OK.
Avec une belle voix. Puis, ben, c'est ça. On a une personne qu'on affectionne particulièrement, toi et moi, l'avait mis dehors sans raison valable. Mm. Et d'ailleurs, cette personne-là qui l'avait mis dehors est dehors aujourd'hui. Mais c'est ça. Elle avait essayé de l'empêcher de travailler à la station rivale, qui était Énergie, on va dire. Puis,
il n'a pas 50 en Abitibi des
réductions. Ben non, ben c'est ça.
Il y en a 3, là.
C'est pas mal ça. Fait que c'est ça, on a voulu l'empêcher de travailler puis de gagner sa vie avec son métier. Tu sais, juste pour...
Ça aurait pu être Sean FM.
Même pas une personnalité qui est en onde, là, ça change absolument rien.
Ça aurait pu être Sean FM avec Denis Power.
Mais bon, ça aurait pu être Sean FM, ouais. Bon, okay, c'est une station bilingue, hein, quand même, c'est assez impressionnant.
En effet.
Ben, pour vrai, j'en ai pas vu tant que ça des stations bilingues dans toute ma vie.
Ben, moi, quand il parlait, je ne sais pas si c'était bilingue, quand il parlait, je ne comprenais rien. Fait que c'était peut-être trilingue, puis je ne le sais pas. Là. Mais bon.
Ben, c'est une station qui était, tu sais, je pense que c'était une station. Communautaire, semi-commercial, semi-communautaire. Puis, tu sais, c'était fait un petit peu, là.
Hey, Frank,
À la voix comme je te pousse.
J'ai une nouvelle avant qu'on aille à la pause, là. J'ai une nouvelle pour toi. Écoute, quelque chose de huge. Hello, mommy! Écoute, la télévision américaine ne sera plus jamais la même. Pat Sajak va quitter Wheel of Fortune. Après 41 saisons, il est âgé de 77 ans et il a annoncé que la saison qui démarre en septembre 2024 sera sa dernière. Et j'ai l'intention de vous montrer probablement jeudi dans les tweets de Twitter. Il va y avoir des tweets de Twitter traditionnels, mais je vais essayer de vous faire un top 5 des calls les plus sans dessin de Wheel of Fortune. C'est vraiment hallucinant. Là. Puis là, cassez-vous pas la tête, c'est pas parce que vous parlez pas anglais que vous comprendrez pas les jokes. Je vous en donne l'assurance.
Je suis complètement démoli de cette nouvelle-là.
Je vais te donner un exemple. T'sais, la personne, elle a tout trouvé la solution. A streetcar named Desire. OK? qui est une pièce de théâtre de Tennessee Williams. Ben, il manque juste le M à trouver. OK? Fait que ça fait A Streetcar, N-A, espace, E-D, Desire. Et la personne demande la lettre K. Tu vois le style?
Naked Desire.
Ouais, oh, c'est ouais. Ça. Fait que. Fait qu'on va, on va se. Puis il y en a des bien pires que ça. Là. Fait qu'on va s'amuser avec ça, probablement jeudi. Mais oui, écoute, écoute, succès phénoménal de cette émission-là. Évidemment, je n'ai pas besoin non plus de vous parler de la belle Vanna White, qui a été là, je ne sais pas combien de temps, ni pendant combien d'années, mais donc voilà.
Je pensais que c'était Donald Lautrec qui animait ça, moi.
Ah ouais, la, oui, oui, ben oui, ben oui, la roue chanceuse avec des briquettes de camping et des tentes Coleman à 22 piastres. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment, là, j'essaie de... Bon, un instant, j'ai-tu fait une faute? Ah, ben oui. J'ai-tu fait une faute, moi? Je voulais mettre le bouclier à ma mamie. Puis là, ça m'a... Ah, voilà! Voilà, voilà.
Ah, lave-la.
Lave-la, lave-la. Allô, Pierre. Mamie. J'espère qu'il fait un temps favorable aux feux de forêt au Témiscamingue.
En fait, défavorable aux feux de forêt.
Ben, favorable aux feux de forêt dans le sens des éteintes, Frank.
Oui, oui, ben oui, j'avais compris. Je vais juste rephraser ça comme il faut. On pourrait aller faire... Tu sais, avant d'aller faire la petite pause, moi, j'ai une petite nouvelle positive. Je vous parle d'une église dans le nord de l'Alberta. Une église, pour vrai, vraiment spéciale, hors norme, extraordinaire, je dirais même. Une église... s'appelle l'Église Unie Saint-Paul à Grand Prairie, Grande Prairie. Mm-hmm. Ils se démarquent de leur co-sectaire ou co-religionnaire, peu importe, en étant favorables à l'ouverture à la diversité sexuelle et de genre. C'est vraiment intéressant. Ils adhèrent à un organisme qui s'appelle S'affirmer ensemble. Et en fait, ils ont célébré cette adhésion-là dimanche dernier lors du service religieux. Et d'ailleurs, il y a une douzaine d'églises à travers le pays qui adhèrent à ce mouvement-là, cet organisme-là, S'affirmer ensemble. Le but de cet organisme-là, qui date quand même des années 80, c'est de soutenir, au début, c'était juste les gays et lesbiennes, mais là, ça s'est développé avec le temps. Dans l'Église unie du Canada, qui est une dénomination protestante, si j'ai bien compris ou si je déduis bien, de promouvoir la justice et l'inclusion pour toutes les personnes au sein de l'Église. Il y a 300 églises post-secondaires et résidences. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une église post-secondaire, mais il y a beaucoup de résidences, personnes âgées aussi qui adhèrent à ce mouvement-là, cet organisme-là. Fait que c'est une maudite belle affaire. Moi, je vous savez que je ne suis pas très, très favorable à la religion en partant, mais quand ils font des bons coups, ben ils en font. Puis même si je ne conseille à personne, tu sais, puis même si l'enseignement de la Bible lui-même n'est pas favorable, n'est pas très inclusif, on va dire comme ça, ben écoute, s'il y a une modernisation, quand même que ça serait dans le but d'aller chercher plus d'ouailles, ben si ça contribue au moins à ce que ces gens-là se sentent acceptés, parce qu'il y en a qui font partie d'une minorité sexuelle ou la diversité de genre, qui ont la foi, puis qui aimeraient ça, célébrer leur foi, puis vivre leur foi avec d'autres gens, puis si les straight ont le droit, ben pourquoi eux n'auraient pas le droit? Fait que moi, je salue cette initiative-là, qui date depuis longtemps, mais là, c'est intéressant de savoir qu'une église en Alberta, un des États américains au Canada les plus conservateurs, souscrire à ça, je trouve ça vraiment intéressant et j'espère que maintenant que c'est partout dans les nouvelles qu'ils ne subiront pas trop lire des bigots et qu'il n'y aura pas des tatas qui vont aller faire du vandalisme à cette église-là, chose que je redoute parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver parce que les bigots religieux, d'habitude, n'hésitent pas tellement à recourir à la violence puis devenir le bras armé de Dieu et venger Jésus, alors que Jésus n'a jamais demandé d'être vengé, au contraire. Mais il y en a qui le prennent comme ça. Là, Punch for Jesus. C'est ça, j'ai vu ça aux États-Unis. Là, ça existe. Ça, donc, le révérend qui s'appelle Gord Waldie était bien content de voir que ça a fonctionné. Il y a eu une espèce de vote dans sa congrégation, sur les 125 familles, et à 75 %, On a voté pour en faveur de l'adhésion à ce mouvement-là, à cet organisme-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ça montre que même en Alberta, même dans les milieux religieux, il y a des gens qui s'éveillent et qui sont au fait des réalités qu'on est en train d'essayer d'expliquer et d'inculquer à la population et qui sont ouverts à accepter puis à aimer ces gens-là, ceux de la communauté LGBTQ+. Fait que même si c'est dans le domaine religieux, je salue cette initiative-là. Et si je devais détruire toutes les églises une par une, ben ça serait la dernière sur ma liste. On fait une petite pause, puis on parle de Trump avec Martin.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Allô, c'est Vado. Il y a certains collaborateurs de la chaîne Touski TV que tu peux encourager avec la plateforme Ko-fi. Puis quand ça va être disponible, tu vas voir le lien à l'écran puis dans le chat. Bye bye.
Hey, c'est le jour J hein, pour Donald. Donald McDonald.
C'est cet après-midi. Ça fait plusieurs fois qu'on relate les faits, là, mais c'est quand même important parce que c'est dans une instance fédérale. C'est la première fois qu'un ancien président est cité à comparaître pour manquement. Là. En fait, c'est une loi. C'est une loi qui fait en sorte qu'un président doit remettre aux archives nationales le contenu de ses courriels, de ses correspondances et évidemment de tous les documents auxquels il avait accès. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué ça ici. D'ailleurs, tu sais, dépendamment du niveau de sécurité requis pour certains documents, bien, il y en a même que tu n'as pas le droit de lire ailleurs que dans une certaine pièce ou tu sais, en présence de certaines personnes et tout ça. Fait que lui, ben regarde, c'est pas compliqué, tu en es colissé. C'est pas plus dur que ça à mentionner. Évidemment, on en a déjà parlé aussi, là, c'est déjà arrivé dans l'histoire des États-Unis que même quelqu'un, un candidat à la présidence en prison, continue sa course à la présidence. Mais
il n'avait jamais été président.
Non, c'est ça. Un candidat, j'ai bien précisé, mais fait que c'est ça. Fait que c'est une comparution historique. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. En gros, c'est qu'on l'avait sommé de remettre la quantité importante de documents. On parle de 11 000 documents qui traînaient littéralement chez lui. Là. On en a vu dans la salle de bain, on a vu sur le stage, dans la salle de bal, on en a vu à terre qui traînait et tout ça. Là, ça en plus, de, ça n'a même pas été bien fait, dans le fond. Ce
qui traînait à terre, c'était marqué « secret de défense » dessus.
C'est 37 chefs d'inculpation sous la rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale. En gros, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient rendus compte de ça en vertu d'un des avocats de Trump. Il avait, entre guillemets, remis les documents, mais il en manquait. Ils se sont rendus compte qu'il en manquait. C'est ça qui a donné lieu à la fameuse perquisition spectaculaire à Mar-a-Lago, qui a permis d'ailleurs à Trump d'encore une fois se présenter en éternelle victime et de se réclamer d'être victime d'une campagne de salissage. Tout ça, ça servirait l'agenda de vouloir faire dérailler son investiture là, pour les Républicains et patati patata. Mmh. Mais ce qui est arrivé, puis c'est là que c'est excessivement intéressant, c'est que alors qu'il avait des conversations avec, c'est qu'il s'est contredit, c'est plus là que le bas blesse, parce que il s'est carrément contredit, c'est-à-dire que il a affirmé, bon, il a commencé par dire que un ex-président, lire ici un président, peut déclassifier des documents seulement par la force de la pensée. T'sais, à partir du moment là, moi, là, que je partais avec, là, c'était déclassifié, ça. Là, ça va faire. Ouais,
quand je décide que moi, je pars avec, quand je sors la boîte là, puis que je l'amène, elle devient déclassifiée par magie parce que j'y ai pensé.
Oui, c'est ça, exactement. Sauf que, ben là, il y a eu
des pouvoirs mystiques hein, du président.
Il y a eu des conversations sur lesquelles les instances ont mis la main, entre autres avec ses avocats, dans lesquelles il a même mentionné est-ce que ça serait pas plus simple si je leur disais juste que je les ai pu, que je les ai pas. Tu sais, fait qu'écoute, c'est pas. Regarde, il est en téflon. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va sortir de ça. Je ne sais pas s'il va se sortir de ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a suffisamment de preuves pour l'inculper 37 fois de un, puis de deux. Parce qu'évidemment, je doute bien que le ministère de la Justice, s'il a décidé de s'embarquer dans cette affaire-là, ben, ils ne se présenteront pas là, ils m'invitent, de un. Puis de deux, ben, il s'est contredit à plusieurs reprises. Et quand il l'a fait, ça a été publiquement, ça a été sur les ondes de CNN, ça a été sur les ondes de NBC, ça a été... Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va avoir des répercussions quelconques sur la course et sur la suite des choses? Honnêtement, oui. Je ne le sais pas.
Ils vont monter dans un sondage.
Ben, ouais, mais moi, je parle de l'autre sens, là. Je le sais pas. Ça va, encore une fois, ce que ça risque d'avoir comme résultat, c'est de galvaniser ses troupes. C'est celle qui a déjà, et ça va juste leur confirmer leur délai de persécution, puis de dire, ben oui, vous voyez bien, regarde, il n'y a rien là. Puis c'était le président des États-Unis, il a le droit de faire ce qu'il veut. Puis c'est Donald Trump, puis il a le droit de grabber les femmes par leur poussi, puis ainsi de suite.
Fait que,
c'est, écoute, on verra là, ce que ce sera. Et l'autre chose, ben ça plane toujours au-dessus de la tête de Donald Trump, la fameuse enquête qui se déroule actuellement en Géorgie, dont on devrait connaître les résultats à la fin de l'été, au mois de septembre, sur sa tentative d'altérer les résultats des présidentielles, évidemment, dans l'État de la Géorgie, qui était un État vraiment comme charnière, là, tu sais... bien important. Ça, on verra ce que ça donnera comme résultat et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme résultat. Tu sais, les sondages donnent pour l'investiture donne Trump gagnant à 64%. Ron DeSantis est à 23%, je pense, puis les autres maillets sont à 3-4. On en parlait hors d'onde.
On en parlait hors d'onde tantôt.
Tu sais, moi, j'ai bien l'impression, on était d'accord, moi, j'ai bien l'impression que, tu sais, la raison pour laquelle il y a autant de candidats à l'investiture, alors qu'on sait très bien que ça va être une course à deux joueurs, ben, je serais pas surpris que, tu sais, il y a eu des tractations backstage de la gang à Trump pour dire, ben oui, présente-toi, c'est parfait, ça va diviser le vote. Puis tout, quand on va te le dire, range-toi derrière Donald. Je pense à un gars comme Mike Pence, qui était le vice-président de Trump, qui lui a tourné le dos le 6 janvier. Est-ce qu'il y en devrait une? Puis que là, regarde, tu vas me rallier là, tous les extrêmes catholiques, puis la Bible Belt, puis tous ceux qui te suivent, puis qui trouvent que tes cheveux sont bien séparés sur le côté. Puis quand je vais te coller à la shot, vu que tu m'en dois une, tu m'as tourné le dos, là, t'as été mon Judas, ben regarde, tu vas te ranger en arrière de moi, puis tu vas dire à ta gang, votez Donald. Fait que moi je pense que c'est ça qui va arriver, puis je suis obligé de tranquillement, pas vite. Là, faut pas être naïf. Mais tranquillement, pas vite, je suis obligé un peu de me ranger derrière toi, puis même d'aller jusqu'à dire que je ne serais pas surpris que Donald Trump devienne le premier. Je pense que ce serait le premier président à jumper un terme, puis avoir son dû. Mais non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y en a eu un autre. Mais en tout cas, peu importe, là, on s'en calisse. C'est plate.
Mais oui, il y a des bonnes chances de redevenir président. C'est ça le plus tragique, puis c'est ça qui serait le plus dangereux, surtout dans le contexte de la guerre avec la Russie. Entre la Russie et l'Ukraine, que lui convaincu, en tout cas, il essaie de convaincre les gens qu'en 24 heures, il pourrait la régler.
Oh, ben là,
mais le pire, c'est que Mike Pence, c'est pas vrai qu'il en doit une, parce que lui, il dit « Ah, on va ça de bord ». Il n'avait pas le pouvoir. Mike Pence n'avait pas le pouvoir de faire ce que Donald Trump lui demandait. Fait qu'il ne l'a pas fait.
Ben non, mais ça, c'est un détail.
Sauf que, tu sais, il n'aurait pas été... en tout cas, selon Trump, il n'a pas été assez solidaire. Fait que, il estime que... Tu m'en dois une, mais il n'y aurait rien pu faire pour vrai. Ça fait partie encore de la réalité alternative que Trump a réussi à faire avaler à sa gang. Puis, ben moi, c'est ça. Je pense comme toi, c'est que le but, c'est de diluer le vote, de répartir les votes républicains en plusieurs candidats, des pions. Mike Pence, c'est le papier de toilette de Donald Trump. Puis, quand il aura ramassé une couple de caca sur sa surface, ben il va se rallier, il va retourner dans le cul de Trump. Dans sa job de papier de toilette, et ça va servir à Trump. Et DeSantis, belle valeur, mais
si on a parlé,
je ne le vois pas gagner.
On n'en a pas parlé, mais tu sais, Joe Biden qui veut réintégrer l'UNESCO suite à ce que ça a été Trump qui avait fait sortir les États-Unis. À l'époque, ce qu'il alléguait, c'était qu'il y avait de l'antisémitisme crasse au sein de l'UNESCO. Puis tout. Ben, c'est rien que se trouver une raison pour sortir, évidemment. Puis là, ben, tu sais, à quoi ça va donner lieu, ça, si jamais on avait raison? Ce que je ne souhaite pas, là. On est peut-être
oiseaux malins. C'est la pire affaire que Trump revienne au pouvoir. Personne ne veut ça. Personne de sensé, je veux dire, veut ça. Et ça, c'est qui veut ça. Mais faut relativer aussi parce que pour l'instant, tu sais, il représente le tiers du vote républicain, Trump, vu qu'il est en tête, tout ça. Mais tu sais, c'est le tiers du vote républicain, c'est pas le tiers du vote américain. Là.
Non,
il y a
non,
beaucoup de démocrates là-dedans. Là. Fait que même s'il a beaucoup de succès dans sa course à l'investiture, ça nous apprend pas grand-chose sur la présidentielle qui va suivre.
Non.
Puis j'espère qu'il va y avoir des candidats démocrates un petit peu plus hauts que Biden, qui projette une image de vieillard dépassé, qui au bout de ses forces. C'est un navire au bout de son voyage. Là. Puis les Américains, l'expérience, ils n'ont rien à foutre. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui parle fort en donnant des coups de poing sur la table puis qui montre une image de force aux ennemis. Puis, tu sais, ils voient ça comme ça, eux autres. Fait que ça leur prend un général à la tête, là. Puis, les démocrates n'ont pas ça.
La plupart des sondeurs, des observateurs américains, tu sais, de leur analyse de la raison pour laquelle Trump est autant en avance, oui, OK, il y a peut-être un peu l'espèce de laxisme de Ron DeSantis, puis le pétard mouillé de l'annonce de sa candidature avec les codes, les niaiseries avec Elon Musk, les 20 minutes pas de son sur Twitter, puis patata. Mais essentiellement, par contre, il y en a beaucoup qui se prononcent en disant que c'est parce qu'ils pensent que Donald Trump est celui des deux qui a le plus de chances de battre Biden. Fait que c'est pas nécessairement Trump, c'est le meilleur. C'est Trump, c'est celui qui a le plus de chances d'une fois accédé à la Maison-Blanche à nouveau. Fait que, parce qu'il y a eu des sondages qui ont été lancés aux États-Unis il y a quelques mois. Je n'avais parlé un petit peu ici. Les deux partis pensent, et les démocrates et les républicains s'entendaient dans deux sondages que ce qu'ils voulaient fondamentalement, c'est que ce ne soit pas ni Biden ni Trump qui soient dans la course. Ils veulent des changements des deux côtés, là. Oublie pas ça. Mm-hmm. Fait que les démocrates aussi préféraient avoir quelqu'un d'autre que Joe Biden, mais tu vas mettre qui? Il n'y a personne. Il n'y en a pas de rockstar. Il n'y en a pas.
Il faudrait qu'il aille recruter un Tom Hanks là, ou bien quelque chose du genre, quelqu'un avec une notoriété.
Il avait parlé de The Rock.
Ouais.
Ben non, écoute, je te dis pas que c'est un bon candidat, je te dis qu'ils en ont parlé.
Oh, ouais, je sais, mais ça ferait pas sérieux un lutteur, là. C'est de valeur, là, mais ça ferait pas très sérieux.
C'est plus un lutteur, là. C'est un Ronald Reagan.
C'est comme ça que c'est fait connaître. Puis tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, regarde, Trump, là, c'est un gars de télé-réalité, là, tu sais. Ben, c'est sûr qu'avant, il y avait quand même. Il s'est fait connaître avec l'immobilier, puis avec sa fortune, puis en étant le fils de son père, tout ça. Mais oui, ça prend juste une vedette, hein, finalement. Fait que The Rock, ça serait quand même mieux que Trump, je suis convaincu. Là, tu ne peux pas faire plus fou que Trump, mais la secte MAGA, elle, peu importe ce que Trump va faire, ils vont tout le temps triper sur lui, puis leur appui sera toujours indéfectible, puisque pour eux autres, Trump, c'est pas un humain ordinaire.
Moi, je m'attends.
C'est l'envoyé du Seigneur, c'est l'envoyé de Dieu pour réparer le pays de Dieu.
Je m'attends quand même encore à ce que ça soit hyper serré. Je m'attends quand même encore à ce que, peu importe ce que sera le résultat, mais écoute bien, là, je te fais une bold prediction. Là. Si Trump l'emporte et que c'est serré, je ne serais pas surpris qu'on assiste exactement à la même affaire qu'on a assisté, mais à l'envers.
C'est-à-dire?
On va demander des comptages partout. On va prétendre, écoute, Trump, il garde, gardez. Non, moi, je te dis, ça va être. Cette élection-là va encore être le bordel.
Oh,
peu importe son résultat. Peu importe.
Ben, je pense que ça va être pire si Trump perd, parce que là, c'est certain.
Ah,
il va se faire désarmer MAGA, là, puis il va essayer de prendre des places par la force.
Il s'est fait voler deux fois. Il s'est fait. Vous voyez bien. Regarde, on recommence. L'absence, l'inexistence de quelque chose est la preuve de son existence. Donald Trump n'a pas gagné, c'est la preuve qu'il a gagné.
Ah bon, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'en ce moment même, il y a déjà des appels aux armes qui se font dans la magasphere. Là. Il y a des gens qui parlent déjà de s'attaquer aux tribunaux qui sont corrompus par les démocrates, tout ça. Fait qu'il y a déjà des appels à la violence et des appels aux armes. Imagine si Il se ramasse en élection présidentielle et s'il perd encore, ça, c'est certain. C'est certain qu'il va y avoir des. Je suis convaincu qu'il va y avoir des morts. Il y en a eu le 6 janvier, des morts, là. Il y en a eu quelques-uns, mais là, ça va être pire que ça. Là. Il y a des fous qui vont arriver avec des guns. Là. Ça va être une mini-guerre civile aux États-Unis. Je suis convaincu. Aucun doute. Trump est capable de fucker ses concitoyens à ce point-là facilement. C'est un leader de secte. Et les leaders de secte font ce qu'ils veulent avec leurs adeptes. C'est le propre d'une secte. C'est quoi ta nouvelle drôle?
C'est Patsy et Jack.
Ah, OK. Excellent. Ben, d'abord, je vais te parler d'une annonce qui a été faite, Colin. On en a déjà parlé là, du nombre de profs non qualifiés qui travaillent dans nos écoles. Le Centre de service scolaire des Forts dans le Bas-Saint-Laurent, un des endroits où je suis né, ils ont fait un post Facebook pour inviter des personnes n'ayant pas de formation en enseignement à une rencontre d'information pour devenir prof. Encore là, j'imagine que Drainville va nous servir. Là. Ouais, ben, des mauvais profs, c'est mieux que pas de profs du tout. Mais oui, mais Colin, c'est un petit peu. On est-tu rendu là, là? Ça a l'air que oui. Dans ce post Facebook-là, ben, c'est ça. On essayait de. J'ai le post Facebook, c'est une belle petite infographie. Vous êtes en recherche d'un emploi d'enseignante ou d'enseignant dans nos écoles pour l'année scolaire 2023-2024. Rencontre des formations pour les gens n'ayant pas de formation en enseignement. Et ça se passe le jeudi 15 juin, en tout cas, à telle place.
On donne une formation pour le monde qui n'a pas de formation. C'est pas pire.
Oui, c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas compétent pour être un prof, on va vous expliquer comment faire semblant. Je ne sais pas. Mais. Puis sous, évidemment, Facebook étant ce qu'il est, il y a tout le temps des commentaires qui suivent les publications. Puis il y en a un qui était un commentaire intéressant qui disait: j'ai abandonné l'enseignement parce que les conditions sont affreuses. Ça, c'est quelqu'un qui a écrit ça dans les commentaires. Le syndicat de l'enseignement de cette région-là, la région de Métis, a dit avoir reçu plusieurs courriels de membres qui ont voulu dénoncer ce recrutement-là de profs incompétents. Et selon le président du syndicat, c'est la première fois où une offre est aussi clairement indiquée. OK, regarde, là, on veut du monde qui ne savent pas ce qu'ils font. Là. On est rendu là. Le concierge ne veut pas. On a demandé aux itinérants dans la rue. N'importe qui, venez-vous-en. On va vous faire une espèce de formation pour avoir l'air de savoir ce qu'il fait.
Hey, toi, qu'est-ce que tu fais à soir? Viens-t'en.
T'as-tu devenu prof l'année prochaine? Oui, oh, la vérificatrice générale au mois de mai, on en a parlé, avait dressé un portrait assez alarmant de l'état des forces enseignantes. Le quart des enseignants avait pas n'était pas légalement qualifié. C'est 30 000 personnes. Puis évidemment, ben, c'est ça. Drainville, c'est la même chanson. Là, ben, là, du monde pas compétent, c'est mieux que pas de monde du tout. On est rendu là. Sauf que le problème, c'est qu'on le savait on savait il y a longtemps que si on laissait les choses traîner comme elles étaient, avec les conditions comme elles sont pour les enseignants, on savait qu'on ferait face à une pénurie. Ça a été annoncé, ça a été crié sur tous les toits. Mm-hmm. Puis on a décidé de rien faire en se disant, ben, peut-être que ça n'arrivera pas. Ben, c'est arrivé. On vit maintenant dans ce monde-là où, puis tu sais, gars, ça c'est le comment il s'appelle? Jean Bernatché, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Ben, premièrement, il dit que c'est le fait que les élèves changent souvent d'enseignant, puis de façon répétée, puis c'est jamais le même, ça va avoir un rôle déterminant dans le reste de sa scolarité. Il dit, on sait que ça se dessine très tôt. Si les jeunes vivent une mauvaise expérience au début de leur parcours scolaire, ça peut être structurant pour la persévérance et la motivation scolaire. Autrement dit, ça risque de faire des décrocheurs. Ça, c'est ce que Jean Bernatché dit, qui est un professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Il dit, on en est là actuellement au Québec. Pourtant, il y avait des signaux très clairs qui avaient été envoyés au cours des 10 dernières années, indiquant qu'on pouvait vivre une telle pénurie. Et c'est arrivé. Puis, on met ça beaucoup sur le dos. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qualifiés qui veulent juste plus rien savoir de cette job-là parce que les conditions sont dégueulasses.
C'est pas juste qu'on n'a pas formé de relève, c'est qu'on a écœuré ceux qui étaient là.
Exactement. On ne les traite pas comme ils le méritent. On on fait des coupures, on leur rajoute une charge de travail qui est excessive, on leur met toutes sortes de règlements à appliquer dans les mains, on laisse les cas problèmes entre les mains des professeurs qui ont à dealer déjà avec 35 autres enfants. On a rendu cette job-là impossible à exercer sans faire un burn-out aux 10 ans là, ou aux 5 ans.
Rappelle-toi quand on a reçu Joe Saint-Pierre. Les cas problèmes, c'est lui qui gère ça. Les horaires, il y a des kids qui... Il faut gérer toute la logistique en plus de leur enseigner, en plus de gérer toute la paperasserie, les feuilles de temps, les ci, les ça. En plus, il faut corriger, il faut suivre le cursus. Ça n'a juste pas d'allure.
Ça va jusqu'à la cloche qui sonne même pas à bonne heure. Là, ouais. Puis ça, j'en avais parlé parce que ça me faisait sourire un peu comme les enfants de ma blonde ici. Là. L'école commence à 7h58 jusqu'à 11h22. T'sais, c'est des... N'importe quoi. Ils font n'importe quoi. C'est gérer tout croche. Puis la première chose qu'on apprend sur les gens qui gèrent les écoles, les commissions scolaires, ces génies-là qui savent ce qu'il y a de mieux pour les enfants et pour les professeurs et qui savent qu'on est dans un contexte où les moyens sont limités puis on n'est pas capable d'offrir les services aux élèves, notamment parce qu'on manque de budget et ils vont discuter de ça dans un paradis, dans un hôtel paradisiaque dans le sud, puis ils se payent la traite, puis les spas nordiques, puis on s'en va, on analyse un hôtel au complet, puis on s'en va discuter de ça dans un spa, de comment il faut couper pour couper dans les écoles pour arriver à closer le budget. Mais évidemment, on ne coupera pas dans nos petits voyages, nos petites réunions, nos petits bals à l'huile du côté de la commission scolaire. Moi, je pense que c'est une instance de trop. Je ne suis pas un connaisseur là-dedans. Là. Je parle un peu à travers mon chapeau, mais j'ai de la difficulté à comprendre en quoi les commissions scolaires, qu'est-ce que les commissions scolaires font que les écoles ne pourraient pas faire avec un petit peu plus de staff, puis moins de structure et de building, puis de voyage, puis de commission, puis de petits congrès, puis de... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être éliminer ce palier-là. Mais bon, je suis loin d'être un expert en enseignement, mais la part du temps, quand on entend parler des commissions scolaires, c'est soit pour des décisions stupides qui ont été prises, ou soit parce que on se rend compte qu'ils gaspillent de l'argent dans des petits congrès dans le sud ou bien pays du luxe.
Ça peut arriver qu'il y ait des fois, on appelle ça dans le monde corporatif, là, puis je compare pas les deux, mais du red tape, du procédural, des nouvelles façons de faire. Hein, là, c'est 8h03, puis pourquoi c'est 8h03? Mais tu sais, tout ça, ces affaires-là, moi, ça, c'est ma petite expérience à moi. T'sais, quand tu as du bon monde, quand tu as du monde dévoué, quand tu as du monde qui ont la passion d'enseigner, quand tu as tout ça, tu sais, il y a des choses qui vont On va en rire, on va dire, ben ouais, on regarde là encore les higher-ups qui ont décidé que c'était à 8h07, ha, 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 tu sais, tout le kit. Mais là, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont ça, qui sont de cette mouture-là, ils s'en vont. C'est ça le problème. C'est le réel problème, c'est ça, c'est que non seulement t'as pas, ma petite opinion à Saint-Saëns, c'est que non seulement t'as pas assuré de relève, mais tu sais, repense à toutes les négociations, repense à toutes les conditions de travail, repense à toutes les... T'sais, fait que là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un Jonathan le prof ou plein d'autres mondes qui ont la flamme d'enseigner, ils vont sacrer le camp puis ils vont faire d'autres choses. Ça, le risque, le réel risque, d'après moi, entre autres, il est là. Parce que rappelle-toi, quand on en parlait avant, Frank, on disait on n'a pas de solution. Mais oui, il y en a une. Parce que tu ne peux pas régler ça overnight. Tu peux prendre des dispositions aujourd'hui qui vont améliorer le problème dans 3 ans. Mais en attendant, calice, ça prend des bodés dans la classe. C'est-tu, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, là. On est rendu là, ça va être des profs citoyens, ouais. Esti, qu'est-ce que je te dis?
Ben oui, on est rendu là. Je veux réagir dans les commentaires. On dit que ça n'existe plus des commissions scolaires, c'est des centres de services scolaires. Ça, c'est justement à cause d'un paquet de scandales comme ça qu'on a dit, bon, ben là, les commissions scolaires, là, c'est vrai là, que là, tu sais, c'est mal géré tout ça. Fait qu'on va. On abolit les commissions scolaires. Ça va être des centres de services scolaires. C'est la même crise d'affaires avec le même calice de monde là-dedans. C'est les mêmes maudits incompétents de l'ologue. C'est la même affaire. Laissez-vous pas avoir par les changements de nom de structure. C'est pas compliqué. Le gouvernement a dit, ouais, c'est un peu gênant, commission scolaire. On passe ça sur un autre nom. Ils ont juste changé de nom, là. C'est des commissions scolaires. Puis je vais appeler ça comme ça jusqu'à mon dernier souffle parce que ça me tente pas de jouer leur jeu. C'est la même maudite affaire. Ils ont fait la même affaire avec des les centres de santé, une structure dans le système de santé. Ils ont changé de nom parce que c'était rendu embarrassant. Parce que quand tu tapes commission scolaire, tombe sur des vieux scandales de contrats de 200 000 $ pour arroser des plantes ou pour installer des plantes en plastique dans les commissions scolaires. Puis ils ne veulent plus que tu tombes là-dessus puis sur les voyages dans le sud. Fait que maintenant, tu vas googler centre de service scolaire. Puis ça, c'est un nom frais. Hein? Ça mène moins loin dans le passé puis on tombe sur moins de dossiers scandaleux. Mais c'est la même maudite affaire. En tout cas, ils accomplissent le même rôle avec le même monde dans les mêmes buildings puis gaspillent encore notre argent, l'argent qui devrait aller aux élèves. Fait que appelez ça comme vous voulez, centre de service scolaire. De toute façon, quand il y aura assez de scandales de centre de service scolaire, ben, ils vont encore changer de nom. Là. Ils vont appeler ça le regroupement scolaire des établissements en enseignement. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait faire le coup. Là. Soyez pas dupes de ça.
Moi, je vais te parler de quelqu'un qui a carrément juste décidé de bypasser le système scolaire. Je te parle d'une jeune fille qui s'appelle Antea Grace Patricia Dennis. Et elle est la plus jeune diplômée universitaire du Canada. Elle a 12 ans. Et non seulement elle est la plus jeune diplômée universitaire, mais elle a reçu un baccalauréat en sciences biomédicales de l'Université d'Ottawa. Évidemment, on parle d'une jeune fille qui a une douance épouvantable, c'est 12 ans. Élevée par une maman monoparentale qui, elle aussi, alors qu'elle a eu sa fille, travaillait fort pour terminer ses études. Elle est maintenant professeure de droit. Et évidemment, ben, on a parlé de la cérémonie là, au cours de laquelle elle s'est vue remettre son diplôme et tout ça. Et écoute les commentaires de la petite. J'ai l'impression qu'une partie de la raison pour laquelle je vais à la collation des grades et que je traverse la scène est pour son propre bénéfice de dire merci d'être là pour moi. Évidemment, elle parle de sa mère. Elle est toujours là pour moi quand j'ai besoin d'elle. Le fait d'être une préadolescente inscrite à un programme universitaire s'accompagne évidemment d'une série de défis uniques, hein? L'œil des autres, les attentes des autres. Quand tu as 12 ans, tu te promènes avec des adultes, là, c'est clair que ça doit s'accompagner de certains défis. Mon conseil aux personnes jeunes, douées, intelligentes et talentueuses est de ne pas se laisser abattre par les attentes des autres. Cela a été un obstacle majeur pour moi où que j'aille. Et là, ben, le point culminant, écoute ça, c'est hallucinant, le point culminant de ces années universitaires a été la rédaction d'une thèse de 40 pages sur la relation entre la main et l'activité fonctionnelle du cervelet, la partie du cerveau responsable de la coordination de l'équilibre et des mouvements. Son écrit concluait que la connectivité entre le cerveau et la main est significativement différente chez les droitiers et les gauchers. Elle a 12 ans. Elle a fait des recherches sur le sujet pendant un an. Elle a présenté ses conclusions lors d'un symposium de l'Institut de biologie d'Ottawa-Carleton. Et elle peut maintenant se considérer comme une chercheuse. Il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais et je me sens comme la maître du cervelet. Elle a 12 ans.
Colin, c'est assez impressionnant. Là. C'est, surtout qu'avec une douance, ce n'est pas tout le temps un avantage à l'école. Hein. Ça peut être très, très compliqué.
Ça peut rendre
la scolarité difficile. Elle a performé, puis elle crime plus que n'importe qui dans l'histoire du Canada, si j'ai bien compris.
Lorsqu'elle n'est pas en train de faire des recherches ou d'écrire sur le cerveau, Antea Grace est également une très bonne violoniste. Tu sais, quand tu dis là, tout avoir, c'est une belle jeune femme. Même, tu sais, tu vois là, qu'elle, sur les photos, elle respire l'assurance. Et donc voilà. Après une pause bien méritée dans ses études durant l'été, elle poursuivra des études de deuxième cycle. Ses trois principaux candidats sont l'Université McGill, Toronto et l'Illinois Institute of Technology. Elle souhaite poursuivre ses recherches sur l'activité fonctionnelle du cervelet. Je reprendrai probablement ce travail lorsque j'aurai mon propre laboratoire et que je pourrai demander à d'autres personnes de le faire avec moi parce que c'est moi qui serai responsable, a-t-elle déclaré. Elle a 12 ans.
Écoute, elle est promise à un bel avenir. Moi, je ne l'imagine pas conduire un néon marqué « Liberté » dessus, puis « Fuck Trudeau », en tout cas.
Non, je pense pas. Puis elle a pas parlé de « Je gage 2$ qu'elle n'est pas une négationniste du réchauffement climatique ».
Non, d'après moi, non. Ah ben, c'est une maudite bonne nouvelle, une maudite belle nouvelle. Au moins, il y en a qui réussissent à patauger dans le système scolaire. Bon, c'est sûr qu'elle a été un petit peu avantagée par, par la génétique, mais quand même, c'est une maudite belle histoire, surtout après ce qu'on vient de raconter, voilà, qu'on n'a plus de profs compétents pour enseigner aux enfants. Ben, au moins, il y a des enfants qui réussissent
à s'en sortir. Accoucher de génie.
Mieux que ben du monde.
J'en ai une solution, accoucher de génie.
Voilà, faites ça. C'est aussi simple que ça. Il faut manger des pickles pendant qu'on est enceinte. Non, non. Bon. Je sais qu'il y a toutes sortes de théories bizarres hein, pendant qu'on t'en va. Mange-y, fais ça, me tiens tout ça à la tête. Mais évidemment, il n'y a rien de ça qui est vrai. OK, bon, on va se quitter là-dessus, puis on se donne rendez-vous demain à midi pour un autre espèce. Bye.
Membre de la famille H2O Web Media.